Et pour nous les adultes, je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes ou garder le feuillet ouvert dans Romains au chapitre 1. Et on va se prendre du temps pour méditer les versets 18 à 32 et voir ce que Dieu veut nous enseigner dans ce texte. Je vous invite à prier, puis on va méditer sur ces versets de la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, on te remercie parce que tu n'es pas resté silencieux. Tu t'es révélé dans la création, on peut voir que tu existes. Mais merci parce que tu ne nous as pas laissés seulement avec cette révélation-là, mais tu t'es révélé de manière plus complète, plus entière, au travers de ta parole, la Bible. Merci parce que par elle, on peut apprendre qui tu es, et comment être en bonne relation avec toi grâce à Jésus. On prie que tu ouvres nos cœurs, que tu nous donnes des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, plus de toi, plus de ta gloire, plus de qui tu es. On veut prier la même chose pour les enfants et pour les moniteurs qui les enseignent. Veuille agir par ton esprit pour que ton peuple soit édifié. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Quelle est la réaction de vos amis quand vous leur dites que vous croyez en Dieu ? Comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils ont un sourire un peu gêné ? Est-ce que ça crée un silence un peu embarrassant ? Ou alors plutôt une moquerie ouverte envers vous ? Il faut dire que croire en Dieu, c'est plus vraiment à la mode aujourd'hui en Europe. L'athéisme semble être une évidence. J'ai découvert qu'il y avait une association qui s'appelait l'Association belge des athées. Et cette association déclare sur son site web que l'athéisme est une certitude. C'est une évidence, c'est une certitude. On sait que Dieu n'existe pas. Ce n'est plus une question à débattre. Vous avez peut-être entendu parler de Michel Onfray, qui est un philosophe francophone. De son côté, il déclare « Dieu n'est pas, point à la ligne ». Ce n'est pas une question à débattre. On sait que Dieu n'existe pas. Croire en Dieu aujourd'hui, c'est parfois un peu comme un adulte qui croirait encore au Père Noël. C'est un peu bizarre. C'est naïf. On sait que c'est ridicule, mais on n'ose pas lui dire pour ne pas l'offusquer. C'est probablement ce que certains de vos amis pensent quand vous leur dites que vous croyez en Dieu. Et peut-être que si vous nous visitez aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, peut-être que c'est ce que vous pensez de nous, les chrétiens. C'est un peu naïf, c'est un peu bizarre. Mais je n'ose pas leur dire pour ne pas les vexer. Le texte de la Bible qu'on va regarder ce matin, il renverse cette logique. On continue ce matin notre série de prédications dans un livre de la Bible, une lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Rome, la lettre aux Romains. Et le passage qu'on va regarder, le passage qu'on a lu, il montre que c'est le contraire. C'est le rejet de Dieu qui n'a aucun sens. On va voir que rejeter Dieu, c'est stupide et ce n'est pas sans conséquence. Rejeter Dieu, c'est stupide et ce n'est pas sans conséquence. On va voir ce matin beaucoup de vérités qui ne sont pas très populaires. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais je crois que ce que la Bible enseigne, non seulement est vrai, mais aussi ce que la Bible enseigne est bon pour les êtres humains. Et c'est une vérité qu'on a besoin d'entendre. Donc je vous encourage à vous accrocher, à faire l'effort d'écouter pour voir comment c'est le cas, que c'est une bonne chose et que c'est vrai. Et je serai heureux, à la fin de la prédication, d'échanger avec vous à la porte. Vous avez dans le petit feuillet le plan de la prédication, dans le petit feuillet détachable. On va voir deux choses ce matin. Rejeter Dieu, c'est stupide. Et rejeter Dieu, ce n'est pas sans conséquence. Premièrement, rejeter Dieu, c'est stupide. C'est stupide d'abord parce que Dieu s'est révélé clairement. Il n'est pas resté caché. Dieu s'est fait connaître aux êtres humains. On voit ça avec le verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, les êtres humains, puisque Dieu le leur a fait connaître. Comment est-ce que Dieu s'est fait connaître aux êtres humains ? On voit dans le verset 20 les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Dieu s'est fait connaître au travers de la création. En voyant ce que Dieu a fait, nous pouvons voir qu'il est, qu'il existe. En regardant le monde qu'il a créé, on peut apprendre certaines choses sur Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. Et Dieu ne s'est pas fait connaître à certains êtres humains seulement. Dieu s'est fait connaître à tous les êtres humains, sur toute la surface de la terre. Tout le monde a accès à la création. C'est peut-être plus difficile pour nous qui habitons en ville, mais même là, on a accès à la création, à ce que Dieu a créé. Donc ce que ces versets nous montrent, c'est que Dieu a révélé son existence de manière évidente à chaque être humain sur cette terre, au travers de ce qu'il a créé. N'importe quelle personne, vivant à n'importe quelle période de l'histoire de l'humanité, peut comprendre que Dieu existe et peut apprendre certaines choses à propos de lui. Le réformateur français Jean Calvin écrit ceci : « Où que nous posions nos yeux, il n'y a pas d'endroit dans l'univers dans lequel nous ne pourrions discerner au moins quelques étincelles de la gloire de Dieu. » On regarde l'univers et n'importe où on peut discerner des étincelles de la gloire de Dieu. Qu'on regarde un coucher de soleil ou qu'on entende les tout premiers cris d'un bébé. Qu'on boive un bon café ou qu'on soit émerveillé par la capacité des êtres humains à raisonner sur des choses profondes. Qu'on contemple la voie lactée de nos propres yeux ou alors que l'on goûte un plat qui éveille nos papilles. Ce sont là des étincelles de la gloire de Dieu qui nous montrent que derrière la création, il y a un créateur. Quand on pense à l'immensité de l'univers, la taille de l'univers qui est infinie et la petitesse du globe terrestre, on doit se dire, mais quelqu'un d'une puissance infinie, bien supérieure à la nôtre, a dû créer ça. Le philosophe Voltaire, vous avez peut-être entendu parler de lui aussi, il n'était pas très tendre vis-à-vis de la foi chrétienne, mais il a quand même eu l'honnêteté de reconnaître ceci. Il dit ceci, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Si vous trouvez une cabane en bois dans la forêt, c'est quoi la théorie la plus probable ? Qu'elle est apparue là par hasard ou que quelqu'un l'ait construite volontairement ? Quand on regarde la complexité du monde qui nous entoure, quelle est la théorie la plus probable ? Qu'il ait apparu là par hasard ou que quelqu'un, Dieu lui-même, l'ait volontairement créé ? Rejeter Dieu, c'est stupide parce que Dieu s'est révélé clairement à tous. Mais c'est aussi stupide parce que rien d'autre n'est digne d'adoration. Ces versets présentent la réaction des hommes face à la révélation de Dieu. On voit ça avec le verset 21. Puisque tout en, ils sont donc inexcusables, la fin du verset 20, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont connu Dieu dans le sens où ils ont vu des preuves indéniables de son existence et pourtant ils l'ont ignoré. Ils lui ont tourné le dos. Ils l'ont rejeté. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? D'abord en rejetant son existence, en niant le fait qu'il existe. Comme on le disait dans l'introduction, l'athéisme semble être une évidence aujourd'hui. Mais c'est une folie. C'est l'exemple même de ce qui est décrit dans ces versets, dans le verset 22. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. On pense devenir de plus en plus sages. On est au 21e siècle, on a fait de grandes découvertes. On est à la pointe de la science. On a enfin compris. On a enfin compris que Dieu n'existe pas. On se prétend être sage, avoir tout compris, et pourtant on rejette Dieu. On nie l'évidence qui est devant nos yeux, qu'il y a un créateur et qu'on lui est redevable. On présente l'athéisme comme une évidence et le fait de croire en Dieu comme une folie, comme quelque chose d'arriéré et d'enfantin. Et pourtant, les rayons spiritualité de nos librairies sont remplis de toutes sortes de livres qui veulent développer l'âme, qui veulent nous faire croire en une énergie, en une force, qui veulent nous aider à nous attacher à quelque chose. Et à côté de ça, on rejette Dieu. On dit que c'est irrationnel de croire en un Dieu tout-puissant qui a créé le monde. Mais on réalise qu'au fond de nous, on a besoin de quelque chose auquel se rattacher. Une énergie, une force. Il faut qu'on soit superstitieux. On rejette Dieu et on fait quelque chose de bien plus irrationnel, qui n'a aucun sens. On rejette ouvertement le Créateur dont les preuves de l'existence sont là, sous nos yeux. Quelle folie! On présente aujourd'hui l'existence de Dieu comme une question complexe, à laquelle il faut réfléchir pendant des heures pour peut-être espérer enfin arriver à une conclusion de laquelle on pourrait être un petit peu certain. Non, cher ami, sors dehors et regarde. Regarde le monde que Dieu a créé, regarde les évidences, les preuves qui t'entourent. Et reconnais que derrière cette horloge, il y a un horloger. Derrière la création, il y a le Créateur. Peut-être qu'on peut se dire qu'être agnostique, c'est mieux. Être agnostique, c'est se dire qu'on ne se prononce pas sur l'existence de Dieu, de dire qu'on ne peut pas savoir vraiment si Dieu existe ou pas. Peut-être que ça semble plus humble, moins arrogant. Mais au final, c'est la même chose. Ça revient à dire à Dieu, mais Dieu, tu n'as pas donné assez de preuves de ton existence. On ne peut pas savoir. Tu ne t'es pas révélé assez clairement. Et c'est tout aussi offensant. Parce que les évidences sont là, sous nos yeux. Et c'est pour ça que ce texte peut dire, à la fin du verset 20, « Ils sont donc inexcusables. » Personne n'a d'excuses. Mais les êtres humains ont été plus loin que ça. Ils ont rejeté Dieu aussi en tombant dans l'idolâtrie. Verset 23, « Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. » Ça n'a aucun sens de faire ça. Quelle folie ça serait pour des parents de s'attacher à la photo de leur enfant et d'être tellement subjugués par cette photo qu'ils ignorent leurs enfants réels, en chair et en os. Ça n'aurait aucun sens. Ça serait une folie. Et c'est pourtant ce que les êtres humains ont fait. Adorer l'image de Dieu au lieu d'adorer Dieu lui-même. On voit cette idolâtrie envers la création de manière évidente dans certaines pratiques aujourd'hui. On en vient à célébrer Mère Nature, à adorer Mère Nature. On entoure les arbres pour récupérer leur énergie. On donne une place plus importante à la création physique, à la terre physique, à l'âme humaine. Et on rejette Dieu, celui qui l'a créé. C'est une folie. Mais en fait, la folie, c'est la nature même de l'idolâtrie. Vivre pour autre chose que Dieu, vivre pour autre chose que le Créateur, ça n'a aucun sens. Que ce soit la création physique, oui, mais aussi toute autre chose. Et c'est là qu'on comprend que, en tant que nous, occidentaux, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui nous concerne aussi aujourd'hui. Vivre pour notre bien-être, vivre pour notre santé, vivre pour notre famille, pour notre réputation, pour notre carrière, pour un plaisir physique, pour un loisir, pour le sport. Ce n'est pas que ce sont des choses mauvaises. Beaucoup d'entre elles sont des dons de Dieu, des cadeaux de Dieu. Mais le problème, c'est quand on vit pour ces choses comme si c'était ça, l'objectif de nos vies. Comme si, si ça, on nous le retirait, notre vie allait s'écrouler et que ça n'allait plus. Oui, les dons de Dieu sont des bonnes choses, mais il faut adorer Dieu, pas ses dons. Les cadeaux de Dieu sont des bonnes choses, mais il faut adorer le Créateur, pas les choses qu'il a créées. Et au final, ce texte nous montre que si l'être humain rejette Dieu, si l'être humain nie son existence, le problème, ce n'est pas un manque de preuves. Les preuves sont là. Dieu s'est révélé clairement à tous. Le problème, ce n'est pas non plus un manque d'intelligence. Je ne doute pas que mes amis athées soient extrêmement intelligents et capables de raisonner, capables de comprendre des choses complexes. Le problème, ce n'est pas non plus un manque d'arguments. Comme s'il y allait avoir cet argument en plus qui allait finalement convaincre les gens que Dieu existait. On le voit dans les évangiles, quand certains demandent un miracle à Jésus. Ça ne suffit pas pour les convaincre. Ils continuent à rejeter Dieu. Non, le problème, il est tout autre. Le problème, c'est un problème de cœur. Le problème, c'est que l'être humain ne veut pas que Dieu existe. Et c'est pour ça que quand on parle de rejeter Dieu, ce n'est pas simplement nier son existence, mais c'est vivre comme s'il n'existait pas. Juste avant la rencontre, je parlais avec Andri de la situation à Madagascar, et il me disait combien il y avait tellement de gens qui reconnaissaient que Dieu existe, et pourtant qui vivaient n'importe comment, qui vivaient comme s'il n'existait pas. Ça aussi, c'est rejeter Dieu. C'est faire semblant qu'on est d'accord avec l'idée qu'il existe, mais on ne veut pas se soumettre à lui. Non, le problème, il est plus profond que ça. Le problème du rejet de Dieu, ce n'est pas un manque d'arguments, ce n'est pas un manque de preuves, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un problème de cœur. Le cœur humain qui est mauvais et qui ne veut pas se soumettre à Dieu. On le voit avec le verset 18, il est dit que les êtres humains tiennent la vérité prisonnière. La vérité est là, mais ils l'étouffent. Ils ne veulent pas y croire. Ils ne veulent pas se laisser submerger par la vérité, c'est trop offensant. Ça nous montre que ce n'est pas une mauvaise chose de passer du temps avec notre ami athée à parler de la fiabilité de la Bible, de l'existence de Dieu, des débats de Bible et science. Ce n'est pas mauvais. Mais gardons en tête que toutes ces preuves humaines ne suffiront pas à convaincre quelqu'un de l'existence de Dieu. C'est le cœur qu'il faut viser. Le cœur humain qui rejette Dieu, qui est opposé à Dieu par nature et qui a besoin de naître de nouveau. C'est pour ça qu'on veut ultimement leur parler de l'Évangile, de leur besoin de pardon, du jugement de Dieu qui est sur le péché des hommes et de la solution qui se trouve en Christ, grâce à la croix. Et enfin, rejeter Dieu, c'est stupide parce que ça entraîne la colère de Dieu. C'est comme ça que notre texte commence, « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Quand on parle de la colère de Dieu, il faut réaliser que ce n'est pas comme notre colère. La colère humaine, c'est souvent une réaction incontrôlée. C'est un peu comme si la cocotte minute explose, ça ne va plus, on sort de ses gonds. C'est souvent soit injuste, soit exagéré. On ne sait pas se contenir. Mais la colère de Dieu, ce n'est pas comme ça. La colère de Dieu, c'est sa juste réaction face à ce qui est mal. C'est une réaction appropriée face à quelque chose qui est mauvais, qui doit être condamné, qui doit être jugé. C'est ça la colère de Dieu. C'est une réaction tout à fait juste. Et peut-être qu'on a du mal avec cette idée parce qu'on a des difficultés à réaliser la gravité du mal. On serait probablement plus à l'aise de parler de la colère de Dieu, d'un jugement, uniquement vis-à-vis de choses qui nous semblent vraiment atroces. La pédophilie, des génocides, des féminicides. Pour ces choses-là, oui, on est d'accord que Dieu doit juger. Et on a raison de dire ça. Dieu doit juger ces choses qui sont atroces. Ça ne doit pas être impuni, ce serait scandaleux. Mais on doit réaliser que la colère de Dieu se manifeste contre tout type de mal. Tout type de mal, tout ce qui offense Dieu, y compris dans ce texte, le rejet de qui il est, le rejet de sa personne. Et c'est pour ça qu'on est tous concernés par cette colère, par ce jugement. Chaque être humain, face à la révélation de Dieu, a choisi de lui tourner le dos, de manière ouverte ou de manière implicite. Rejeter Dieu, c'est stupide. Mais ce qu'on voit dans la suite de ce texte, c'est que ce rejet n'est pas sans conséquence. Et ça nous amène à notre deuxième point ce matin, rejeter Dieu, c'est pas sans conséquence, dans les versets 24 à 32. Dieu, il n'est pas un Dieu passif. On peut avoir cette image parfois d'un Dieu qui serait un peu passif, qui laisserait le mal, qui est un peu trop dépassé pour le gérer, par ce qui se passe dans le monde, qui n'arrive plus à tout contrôler. Ou alors un Dieu qui manquerait d'autorité et qui n'arrive plus à gérer la rébellion des êtres humains. Un peu comme un grand-parent qui essaierait de garder ses petits-enfants et qui est dépassé et qui n'arrive pas à les empêcher de faire des bêtises. Dieu n'est pas comme ça. Non seulement, on l'a vu, il va juger et sa colère va se manifester à un moment précis de l'histoire de l'humanité. Et chaque personne devra plier les genoux devant lui. Mais déjà maintenant, Dieu réagit face au rejet des humains. Regardez le verset 24 avec moi. Après toute cette description du rejet de Dieu, dans les versets 18 à 23, il est dit « C'est pourquoi, c'est-à-dire en raison de tout cela, Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur, par les désirs de leur cœur. » Dieu réagit. Dieu livre les êtres humains à l'impureté par les désirs de leur cœur. Et cette idée que Dieu livre les êtres humains revient trois fois dans ce passage. Au verset 24, comme on l'a lu, mais aussi au verset 26. « C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. » Puis enfin au verset 28. « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Dieu livre les êtres humains à leur sort. Il les emmène là où ils veulent aller. Il les livre au mal dans lequel ils étaient déjà. Le mal qu'ils voulaient, le mal vers lequel leur cœur était orienté. Dieu retire sa main qui restreignait ce mal, afin que les êtres humains laissent libre cours aux passions de leur cœur et courent là où ils voulaient aller. C'est un peu comme s'il disait, ok, c'est là que tu vas aller. Ben, je vais t'y emmener, mais tu vas voir que les conséquences seront désastreuses. Et c'est ce qui donne lieu à toutes ces conséquences qui sont décrites ici. C'est ça la conséquence du rejet de Dieu. Des êtres humains qui s'enfoncent dans le mal et des effets moraux qui sont désastreux pour les êtres humains et pour la société. Ce qui est mentionné comme conséquence du rejet de Dieu dans ces versets, c'est premièrement la pratique de l'homosexualité. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Paul mentionne l'homosexualité en particulier ici ? Ce n'est pas parce que ce serait un péché moralement pire que les autres qui sont mentionnés plus loin. La soif de posséder, l'envie, les querelles, la fraude, la ruse, la rébellion envers les parents, plusieurs autres. Non, je crois que c'est surtout parce qu'il s'agit de la même logique que l'idolâtrie. dont Paul a parlé plus tôt, quelques versets plus tôt, est l'idolâtrie qui est à la racine de tous les péchés que Paul mentionne ici. L'idolâtrie, c'est un renversement de l'ordre naturel, c'est-à-dire de l'ordre par lequel Dieu a créé les choses. C'est adorer et servir la créature au lieu d'adorer et servir le Créateur, qui lui est béni éternellement, comme on le voit dans le verset 25. C'est un renversement de l'ordre naturel, de la manière dont Dieu a créé les choses. Et c'est le même renversement qui se passe avec la pratique homosexuelle. On le voit au verset 26. Ils ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Tout comme les êtres humains, au verset 25, ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Et qu'ils ont, au verset 23, remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. L'homosexualité renverse l'ordre naturel par lequel Dieu a créé les choses. Ce n'est pas que la sexualité est mauvaise. La sexualité est bonne et créée par Dieu. Mais elle a été créée par Dieu pour un cadre précis, pour s'exprimer dans le cadre du mariage, dans l'engagement d'un homme et d'une femme pour la vie. Dans ce cadre-là, c'est une bonne chose que la Bible célèbre et même que la Bible encourage. Mais en dehors de ce cadre, la Bible condamne toute pratique sexuelle et tout désir sexuel comme étant des péchés, des offenses envers la bonne loi de Dieu. C'est pour ça que oui, même si c'est contre-culturel aujourd'hui, les chrétiens affirment depuis plus de 2000 ans que la pratique homosexuelle est un péché. Tout comme le sont les relations sexuelles en dehors du mariage, le concubinage ou l'adultère. Tout comme le sont la pornographie ou les pensées de convoitise sexuelle. Ces choses corrompent la bonne vision, la bonne création de la sexualité que Dieu a voulu comme expression de l'amour d'un homme et d'une femme dans le cadre du mariage. On peut se demander, mais pourquoi condamner quelque chose qui semble naturel ? Certains qui ressentent des désirs, pas envers une personne du sexe opposé, mais envers une personne du même sexe. Mais le fait qu'on soit né d'une certaine manière ne signifie pas qu'agir de cette manière est une bonne chose. Je peux dire que je suis né colérique, mais ça ne justifie pas mes excès de colère pour autant. Ça ne justifie pas que je laisse libre cours à ces désirs. Ce qu'il faut se demander, c'est si ces désirs plaisent à Dieu ou non, s'ils sont justes ou non. Ce n'est pas ce que je ressens qui définit ce que je suis. Et c'est là qu'on reconnaît qu'on vit dans un monde où le péché est présent. Et on vit dans un monde où les conséquences du péché sont présentes. Les désirs sexuels qui se détournent de l'intention originelle de Dieu font partie de ces conséquences. Ce n'est donc pas le fait d'éprouver cette attirance homosexuelle qui est un péché, mais c'est le fait d'y laisser libre cours, d'agir selon ce désir, de laisser cette attirance transformer en un désir ou en une pratique. Et si c'est quelque chose avec lequel vous luttez, je vous encourage à en parler avec un responsable de l'Église. Steve m'a envoyé cette semaine le témoignage d'un gars qui s'appelle Rob. Et il explique qu'il ressent une attirance pour les personnes du même sexe, depuis l'adolescence. Il est devenu chrétien quand il avait 19 ans. Il avait donc choisi de ne pas agir selon cette attirance et de ne pas se donner à des relations sentimentales. Mais au milieu de la vingtaine, il ressentait pas mal de frustration et de conflits entre ce qu'il ressentait et ses sentiments et sa foi, entre toutes ces choses-là. Il se sentait assez seul et il a finalement quitté l'Église. Il a fermé la Bible. Il a décidé de vivre sa vie comme il le voulait, d'agir selon ses propres désirs. Et il pensait que le fait de laisser cette attirance se transformer en pratique était ce qui allait le combler, ce qui allait le satisfaire. Il a vécu pendant près de 5 ans en laissant libre cours à sa sexualité, en résistant au Saint-Esprit qui le mettait en garde. Et peu à peu, il a réalisé qu'il ne trouvait pas la satisfaction qu'il cherchait. C'était bien plus chaotique qu'il l'avait imaginé. Jusqu'au jour où il est devenu pleinement conscient de la manière dont il avait tourné le dos à Dieu, dont il avait rejeté Dieu. Il est devenu conscient de la colère et du jugement de Dieu contre le mal qui l'a convaincu de péché. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti. Il a choisi de faire demi-tour. Et voici ce qu'il écrit par rapport à sa vie maintenant. Je cite, « Maintenant, ma vie est plus calme et plus heureuse. J'ai une famille spirituelle, l'Église. Même si je ressens toujours une attraction envers les personnes de même sexe, mes sentiments se sont atténués, alors que je me concentre moins sur moi-même et plus sur l'amour de Dieu pour moi. Je sais que je peux lui faire confiance pour ma vie. Il n'a pas une liste de conditions d'acceptation impossible à cocher. Il m'aime de la même manière qu'il aime Jésus, basé sur ma foi en sa mort et sa résurrection pour moi. Combien c'est libérateur. Je suis conscient que parler de ces choses, parler de ce sujet n'est pas facile. Pas parce que la Bible ne serait pas claire à ce sujet. Je crois que la Bible est très claire à ce propos. Et c'est que très récemment, dans l'histoire de l'Église, que certains chrétiens ont commencé à atténuer ce que la Bible enseigne par rapport à la sexualité. Mais ce n'est pas un sujet facile, d'abord parce que c'est très personnel. Ça touche à des sujets intimes et profonds qui nous concernent. Mais c'est aussi pas un sujet facile parce que ce n'est pas très politiquement correct de prêcher ce que la Bible enseigne sur le sujet. On vit au siècle de la tolérance. Il faut tolérer ce que les autres croient. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il ne faut pas juger les autres. Mais la seule chose qui n'est pas tolérée, la seule chose qui suscite des réactions vives, c'est de faire ce que je suis en train de faire maintenant. De dire que certains modes de vie ne sont pas acceptables. De dénoncer quelque chose que les gens aiment. Ça, ce n'est pas tolérable. Et c'est souvent parce que c'est mal compris. Dire que l'homosexualité est un péché n'est pas de l'homophobie. Tout comme dire que l'orgueil ou la soif de posséder sont des péchés, comme Paul le fait quelques versets plus loin. Ça n'implique pas d'avoir de la haine envers les personnes qui agissent selon cette pratique. On peut dire qu'on désapprouve une chose, qu'on n'est pas d'accord avec une chose, que c'est une chose qui est mauvaise, sans pour autant exprimer de la haine envers les personnes qui pratiquent cette chose. C'est vrai que trop souvent, les chrétiens ont fait preuve d'homophobie dans leurs actes, dans leurs paroles, dans leurs pensées. C'est triste, c'est condamnable et ça doit être éliminé. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire dans l'Église chrétienne. Est-ce qu'on accueillerait une personne homosexuelle qui souhaiterait venir à cette rencontre? Bien sûr que oui. Tout comme on accepterait les menteurs et les hypocrites, tout comme on est chacun de nous ici présent. Le fait d'être pécheur ne disqualifie pas de la foi chrétienne. Et heureusement, sinon on serait tous disqualifiés. Et au contraire, c'est la seule condition nécessaire pour venir à Jésus. Et c'est une condition qu'on remplit tous. On est tous concernés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec la fin de notre passage où Paul pointe vers une société corrompue comme conséquence du rejet de Dieu. Paul mentionne des actes indignes que les êtres humains commettent. Et ces actes indignes sont décrits dans les versets 29 à 31. Je vais les relire. En parlant des êtres humains, il dit « Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. » C'est une description assez juste de notre société, n'est-ce pas? C'est aussi une description assez juste de notre propre cœur, à chacun de nous. Ce n'est pas uniquement l'homosexualité ici dans ce passage qui est décrit comme étant contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est aussi toutes sortes d'autres péchés desquels, malheureusement, on est moins souvent choqué. Qu'on trouve trop souvent des péchés un peu plus acceptables, qu'on peut tolérer dans notre vie. Chrétiens, on a raison d'être choqué par l'impiété qui grandit, la corruption de notre société autour de nous, y compris dans le domaine sexuel. Mais est-ce qu'on est aussi choqué par notre soif de posséder? Est-ce qu'on est aussi choqué par nos disputes, par notre méchanceté, par notre médisance, par notre orgueil? Est-ce qu'on est aussi choqué par ces choses qu'on l'est par les péchés plus flagrants des autres? Est-ce qu'on est également dégoûté par notre propre péché? De plus, est-ce qu'on est conscient du problème principal de ce passage? Le problème principal de ce passage, c'est pas l'homosexualité, c'est pas l'arrogance, c'est pas le fait d'être rebelle à ses parents. Le problème principal que souligne ce passage, qui se trouve à la racine de tous les autres, c'est le rejet de Dieu. C'est de rejeter Dieu, le Créateur. D'adorer et servir la créature de toutes sortes d'autres manières, plutôt que le Créateur qui est béni éternellement. Est-ce qu'on est choqué par cela? Est-ce qu'on est choqué par cela même quand ça concerne des gens qui ont une vie morale bien rangée? Une vie extérieure où tout semble aller bien, mais qui au plus profond d'eux-mêmes rejettent Dieu, son existence, les preuves évidentes qui sont devant leurs yeux. C'est facile quand on parle de ces choses de parler des autres. C'est ce que j'ai fait depuis le début et c'est ce que Paul fait dans ce passage. Les êtres humains ont rejeté Dieu. Ils se sont corrompus. Ils commettent des actes indignes. Mais le but de Paul dans ce passage et mon but dans cette prédication, c'est pas de nous mettre dans une catégorie à part. Ah voilà, il y a les êtres humains mauvais qui sont dans cette catégorie-là et de l'autre, il y a nous, les chrétiens, qui sont des bonnes personnes, des personnes respectables, qui avons tout compris. Oui, quelques défauts, mais globalement, on va bien et on est supérieur aux autres. Non, le but de Paul dans cette nouvelle section de la lettre aux Romains qui va des chapitres de ce passage jusqu'à la fin du chapitre 3, le but de Paul, c'est de montrer qu'on est tous coupables. Chaque être humain sur cette terre. Nous sommes, c'est ils sont. Ils sont inexcusables. Ils sont condamnables. Nous sommes dans cette catégorie. Nous en faisons partie. On est concernés. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, on serait bien pire que ce qu'on est aujourd'hui. Comme Paul le dira plus loin, il n'y a aucun juste, pas même un seul, aucun qui fasse le bien. On est tous dans le même bateau. Un bateau qu'on est en train de faire couler au fond de l'océan. Et on a tous besoin d'un sauveur. Paul n'écrit pas ces lignes pour condamner, pour dire que la société est corrompue et qu'elle n'a aucun espoir. C'est fini, c'est terminé. Pour dire que ceux qui commettent ces péchés qu'il a dénoncés sont à mettre dans une autre catégorie et sont à ignorer, à rejeter. Non, Paul écrit ces lignes pour mettre en avant la grandeur du salut qui est accessible à chaque être humain. Pour montrer, oui, que la condamnation est juste et méritée, mais malgré cela, il y a cet évangile. Et quel évangile ? Quel évangile ? Un évangile qui parle du Fils de Dieu venu sur cette terre pour prendre cette colère de Dieu qui est mentionnée ici, cette colère de Dieu que chacun de nous mérite, qui se révèle contre notre injustice, notre rejet de Dieu. Un évangile qui parle du Fils de Dieu, Jésus qui donne sa vie librement sur la croix pour prendre sur lui ce jugement éternel qu'on mérite. Un évangile qui parle du pardon des péchés, qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'une relation restaurée avec Dieu. Le privilège et la joie de pouvoir repartir à zéro, au travers de la vie parfaite, la vie sans aucune faute de Jésus, au travers de sa mort pleinement efficace sur la croix, et au travers de sa résurrection qui montre qu'il a vaincu la mort et le péché. Cet évangile, cette bonne nouvelle, elle est accessible à tous, pour tous ceux qui ont rejeté Dieu, aussi perdus qu'ils soient aux yeux de la société, à nos yeux, ceux qui ont une vie morale extérieure bien rangée et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, ceux qui sont intellectuels et ceux qui ne sont pas intellectuels, ceux qui ont une éducation religieuse et ceux qui ne comprennent rien à toutes ces choses. Pour chaque être humain sur cette terre, cet évangile est accessible pour tous ceux qui reconnaissent leur besoin profond d'un sauveur, qui se confient en lui pour être sauvés. C'est vrai pour vous. C'est vrai pour moi. La bonne chose à faire, chers amis, ce n'est pas de rejeter Dieu et lui tourner le dos. Mais la bonne chose à faire, c'est de faire ce que des êtres humains comme vous et moi ont fait il y a plus de 2000 ans. Voici ce que la Bible nous dit à leur sujet. De fait, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. La bonne chose à faire, ce n'est pas de se détourner de Dieu pour servir les idoles, mais c'est de se détourner des idoles pour revenir à Dieu, pour venir auprès de notre Créateur. Parce qu'il y a une colère à venir. Il y a une colère à venir. Et il y a une seule personne qui peut nous en délivrer. Jésus. Et donc la bonne chose à faire, c'est de faire demi-tour. Pas dans 10 ans. Pas l'année prochaine, même pas la semaine prochaine, même pas demain, mais aujourd'hui, faire demi-tour et revenir à notre Créateur. Et pour nous, chrétiens qui avons déjà fait demi-tour, on réalise que c'est par la grâce de Dieu, uniquement. On n'est pas meilleur qu'un autre. Si on a pu faire demi-tour, si on a pu recevoir le pardon de toutes nos fautes, c'est grâce à Jésus. C'est grâce, comme on va le chanter, à Jésus qui nous a donné le repos. J'aimerais vous lire la deuxième strophe qu'on chantera un peu plus tard à la fin.
venez, cœurs honteux et abattus, qui redoutez d'être mis à nu, d'amour et de compassion émus, Christ vous a secouru. Vos pires souillures sont lavées. Il vous revêt de sa sainteté. Approchez sans crainte de l'agneau. Il donne le repos. Jésus donne le repos. Jésus nous a donné le repos du fardeau de nos péchés. Il a lavé nos souillures. Il nous a revêtus de sa sainteté. Et c'est grâce à lui seul. Et donc quand nous voyons la corruption de la société qui nous entoure, et je termine avec ça, quand on voit cela, oui, il est juste d'être indigné. Le mal est vraiment mauvais, il est vraiment dégoûtant, c'est juste d'être indigné. Mais mettons à mort tout sentiment de supériorité, tout sentiment de penser qu'on est meilleur que les autres, qu'on a mieux compris. Non, c'est uniquement par la grâce. Laissons plutôt un sentiment de reconnaissance et de compassion nous envahir. Reconnaissance parce que c'est Dieu qui nous a tirés de là, alors qu'on ne le méritait pas. Et un sentiment de compassion et de pitié même pour ce monde qui est perdu sans Christ, qui est perdu sans Sauveur, dans l'ignorance et le rejet de Dieu. Donc cette compassion, chers amis, nous pousse à proclamer à ce monde qui en a tant besoin cet évangile si beau, cet évangile si grand et cet évangile si glorieux. On va prier pour terminer. Notre Dieu, on te remercie parce que tu ne nous as pas laissés dans notre corruption, dans ce cycle où on devenait de pire en pire et où on était perdu sans sauveur. Merci pour Christ, merci pour la croix, merci parce qu'on peut venir à lui tel qu'il est, pour recevoir le pardon et la vie éternelle. On te prie, notre Dieu, qu'aucun de nous ne se sente trop indigne pour venir à Jésus, et qu'on puisse réellement saisir et comprendre que la seule condition, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Merci pour ce Sauveur parfait. On te prie que tu mettes dans nos cœurs un désir toujours plus grand de proclamer cet évangile à ce monde qui en a tant besoin. Que tu nous émeuves de ce sentiment de compassion et de pitié et de cet amour pour Christ. C'est en son nom qu'on prie. Amen.